de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, et maintenant, je vais vous présenter le journal. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. Selon l'OMS, le coronavirus est 10 fois plus mortel que le H1N1. Kim Jong-un effectue un remaniement massif. L'Arabie Saoudite prolonge le couvre-feu pour prévenir le Covid-19. Pour commémorer 70 ans de relations diplomatiques, l'Indonésie et la Chine ont lancé des timbres. Le président Joko Widodo demande un test de PCR Corona 10 000 fois par jour. Prêtez une attention à l'Agence mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Président Jokowi assure la disponibilité des aliments. Coronavirus, le confinement prolongé jusqu'à 11 mai en France. Chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. Vous êtes avec moi, Audrey. Selon l'OMS, le corona est 10 fois plus mortel que le H1N1. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a indiqué que le coronavirus est plus mortel que la pandémie de grippe porcine H1N1 en 2009. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse à Genève, en Suisse, comme l'a rapporté l'AFP mardi 14 avril, a déclaré que Covid-19 s'est propagé très rapidement et plus meurtrier 10 fois que la pandémie de grippe de 2009. Le coronavirus a actuellement infecté 1,8 million de personnes dans le monde et tué 115 000 personnes, alors que la grippe porcine a tué 18 500 personnes. Mais selon l'agence de santé Lancet, le nombre de victimes de la grippe porcine entre 150 000 jusqu'à 575 000 de personnes. Kim Jong-un effectue un remaniement massif. Le dirigeant de Corée du Nord, Kim Jong-un, a procédé à une refonte majeure au plus haut organe gouvernemental de Corée du Nord, la Commission des affaires d'État, selon un rapport de l'agence de presse d'État KCNA lundi 13 avril. Kim qui est le président de la commission des affaires d'État, a révisé plus d'un tiers de ses membres. Cité par Channel News Asia lundi 13 avril, 5 des 13 membres ont été remplacés dimanche lors de la réunion parlementaire de l'Assemblée populaire suprême du pays. La Corée du Nord a affirmé qu'elle a testé au moins 700 personnes et mis en quarantaine plus de 500 personnes. Mais ce pays n'a pas de cas confirmés de COVID-19. L'Arabie Saoudite prolonge le couvre-feu pour prévenir le COVID-19. L'Arabie Saoudite prolonge le couvre-feu à une durée indéterminée pour freiner la propagation du coronavirus. L'agence de presse saoudienne, dans son rapport dimanche 12 avril, a déclaré que le ministère de l'Intérieur a appelé toutes les personnes à obéir afin de prendre soin de leur santé et de la sécurité, et il a affirmé également que la poursuite des travaux liés à toutes les précautions particulières annoncées précédemment à un certain nombre de villes qui de province et de quartiers interdisant la circulation entre 13 territoires du royaume. L'Arabie Saoudite a commencé à imposer un couvre-feu en mars dernier. Le ministère saoudien de l'Intérieur a initialement déclaré que cela durerait 3 semaines, mais avec la dernière annonce, le couvre-feu sera appliqué indéfiniment. L'Arabie Saoudite a signalé 382 nouveaux cas de COVID-19 samedi dernier. Ainsi, l'Arabie Saoudite compte actuellement 4033 patients positifs atteints du coronavirus. Pour commémorer 70 ans de relations diplomatiques, l'Indonésie et la Chine ont lancé des timbres. Pour commémorer de 70 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Chine, le 13 avril 2020, des couvertures et des timbres illustrant l'amitié des deux pays ont été lancés en ligne. Le lancement du timbre a été effectué en collaboration avec le ministère indonésien des Affaires étrangères, l'ambassade d'Indonésie à Pékin, Post Indonesia SA, l'ambassade de Chine à Jakarta et le Chine Postal. Dans une déclaration écrite du ministère indonésien des Affaires étrangères lundi, la couverture et les 4 timbres contenaient le logo commémoratif de 70 ans, ses pandas et Garuda d'or. En outre, plusieurs caractéristiques uniques des deux pays ont également affiché, comme Baron Bali et Baron Sai, le temple de Borobudur et le mur géant, ainsi que la beauté naturelle de Raja Ampat de la province de Papouasie-Occidentale et la rivière Li dans la ville de Guilin en province de Huangxi. Le président Joko Widodo demande un test de PCR corona 10 000 fois par jour. Le président Joko Widodo a demandé au groupe de travail d'accélérer la gestion des épidémies de coronavirus pour augmenter le nombre de tests sanguins de réaction en chaîne par polymérase ou PCR du coronavirus. Il souhaite que les tests PCR soient effectués plus de 10 000 fois par jour. La demande a été présentée par le président Jokowi lors de l'ouverture d'une réunion limitée au Palais Merdeka, Jakarta, lundi 13 avril. Il a déclaré que l'augmentation du nombre de tests PCR signifie également l'élargissement de la gamme du gouvernement pour détecter le coronavirus. L'élargissement de la gamme peut réduire l'accumulation d'inspections d'échantillons, en particulier dans les zones qui sont centrales ou épicentres de la propagation du coronavirus. Le président a été informé que des tests PCR avaient été effectués sur 26 500 personnes en Indonésie. Prêtez une attention à l'Agence mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Président Jokowi assure la disponibilité des aliments. Le président Joko Widodo a ordonné à ses ministres de prêter une attention particulière à l'Agence mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, FAO, mettant en garde contre les pénuries potentielles ou même la crise alimentaire mondiale en raison de la pandémie de COVID-19. Le président, lors d'une réunion limitée tenue par vidéoconférence depuis le Palais Merdeka de Jakarta, a ordonné lundi au ministre de l'Intérieur Tito Karnavian de rappeler à chaque chef de région de pouvoir maintenir la disponibilité des produits de base. Selon le président, chaque chef de région doit tenir compte des besoins alimentaires de sa région jusqu'à un certain temps à venir, de sorte que la pénurie des produits de base peut être évitée et il n'y a pas d'augmentation drastique des prix. Coronavirus, le confinement prolongé jusqu'au 11 mai en France. Président Macron s'est adressé aux Français lundi soir pour la quatrième fois depuis le début de la crise sanitaire, notant les efforts consentis durant cette épidémie. Il a toutefois souligné que l'épidémie n'était pas encore sous contrôle et a annoncé l'extension du confinement en France jusqu'au lundi 11 mai. C'est ce qu'a affirmé président Macron lundi 13 avril 2020. Dans son allocution, Macron a également annoncé une série de mesures censées venir en aide aux personnes et aux entreprises ébranlées par la situation actuelle, soulignant que l'espoir renaît et que l'épidémie de coronavirus commence à ralentir. Il a noté néanmoins que les hôpitaux restent sous pression au Grand Est et en Île-de-France, de sorte que les mesures déjà prises doivent rester en vigueur. Emmanuel Macron a cependant précisé que la levée fixée à cette date ne sera possible que si tout le monde continue d'être civique, responsable, de respecter les règles et si la propagation du coronavirus a effectivement continué de ralentir. Les règles en vigueur et qui ont déjà montré leur efficacité seront ni renforcées ni allégées au cours des quatre semaines nous séparant du 11 mai, a expliqué le chef de l'État. Chers auditeurs, c'est tout. Le journal d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et pour le titre, le gouvernement réduit le budget des ministères et des institutions pour surmonter COVID-19. Le président Joko Widodo a réduit le budget d'un certain nombre de ministères et d'institutions pour la gestion de la pandémie de COVID-19. Dans le règlement présidentiel de l'Indonésie numéro 54 de 2020, concernant les changements de posture et les détails du budget de l'État 2020, le premier article du premier paragraphe stipule pour mettre en œuvre les politiques et les étapes nécessaires pour gérer la pandémie de COVID-19 et ou face aux menaces qui mettent en danger l'économie nationale et la stabilité du système financier. Des changements sont apportés à la posture et aux détails du budget de l'État pour l'année fiscale 2020. Dans le règlement présidentiel numéro 54/2020, accessible depuis le site web du ministère des Finances dimanche, presque tous les ministères et les institutions, y compris la commission d'éradication de la corruption, la police, le bureau du procureur général, jusqu'à ce que la Cour suprême connaisse des coupes budgétaires. À l'envers, il existe des ministères et des institutions qui ont augmenté leur budget, à savoir le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et de la Culture et le budget de dépenses du gouvernement central. L'article 2, paragraphe 1, stipule que le budget du gouvernement central doit être priorisé pour son utilisation dans le contexte de la gestion de la pandémie de COVID-19 ou face à des menaces qui mettent en danger l'économie nationale et pour la stabilité du système financier. Le budget se concentre sur les dépenses de santé, les filets de sécurité sociale et la reprise économique. Pas en quelques mois, le gouvernement a pris plusieurs mesures importantes et rapides pour faire face à la pandémie de COVID-19. En plus d'établir la politique de restriction sociale à grande échelle et le statut de l'urgence de santé publique, le gouvernement a fourni un budget de 405,1 millions roupias à allouer à la réponse à la propagation de COVID-19. Tout cela a été fait pour sauver les Indonésiens en termes de la santé et de l'économie. Dans le domaine de l'éducation, le gouvernement a tenté d'aider les écolières contraintes d'étudier à la maison. Il existe des programmes d'apprendre de Radio République Indonésie et de Télévision République Indonésie. Ce programme est très utile, compte tenu des millions d'enfants dans toute l'Indonésie ont encore du mal à accéder à l'Internet. J'espère que cela attirera toute l'attention du ministère de la Communication et des Technologies de l'Information, et en particulier du ministère de l'Éducation et de la Culture, qui obtient une augmentation du budget cette année. Serge Ritor, c'était le commentaire pour ce soir.
Histoire d'aujourd'hui, le 14 avril 2010, le tremblement de terre de Yushu. Le séisme de Yushu s'est produit le 14 avril 2010, dont la force est de 6,9 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a eu lieu à Yushu, Qinghai, en Chine, à 7h49 heure locale. Selon le rapport de Xinhua, 1944 personnes sont mortes et 10 000 autres blessées. L'épicentre du tremblement de terre se trouvait au village de Rima, Shanglaxiao, à la région reculée, proche de la frontière tibétaine. L'épicentre du séisme se trouvait à la zone reculée du plateau tibétain qui était régulièrement secouée par le tremblement de terre. Le 14 avril 2011, la mort de Rosihan Anwar. Personnage de la presse, historien, écrivain et humaniste indonésien, Rosihan Anwar est décédé le 14 avril 2011. Rosihan a commencé sa carrière en tant que journaliste pour la Grande Asie pendant l'occupation japonaise. Au cours de la lutte, il a été retenu captif par les colonisateurs néerlandais à Bukituri, à Batavia. Puis en 1961, son journal Pedoman est interdit par les autorités. Pendant le Nouvel Ordre, il a été président général de l'Association des journalistes indonésiens de 1968 à 1974. En 1973, Rosihan a reçu le prix de Bintang Mahaputra III avec Jacob Utama. En 1950, avec Usmar Ismail, il a fondé la Société des films nationaux. Depuis la fin de 1981, il a promu des films indonésiens à l'étranger. Il était toujours critique du cinéma jusqu'à la fin de sa vie. Le 14 avril 2014, deux bombes ont explosé à Abuja, au Nigeria. Le 14 avril 2014, à 6h45 du matin, deux bombes ont explosé à la station de bus Bondé, à 8 km au sud-ouest du centre-ville d'Abuja, au Nigeria. Cette attaque a tué environ 75 personnes et 141 autres ont été blessées. Le gouvernement soupçonne Boko Haram d'être la partie responsable de l'attentat à la bombe. Benarkah di benakmu?
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée Coopération en matière d'approvisionnement en médicaments indonésiens COVID-19 avec le Japon et l'Inde. L'Indonésie, le Japon et l'Inde ont convenu d'intensifier leur coopération, notamment en achetant les médicaments nécessaires pour soigner les patients exposés au COVID-19. Cela a été fait comme une forme de solidarité et de partenariat pour surmonter l'épidémie de COVID-19. Comme cité à la plage kemlu.co.id 14 avril, faisant suite à la direction du ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, l'ambassade d'Indonésie à Tokyo, l'ambassade d'Indonésie à New Delhi, ont coordonné avec les parties concernées au Japon et en Inde pour faciliter la réalisation de la coopération ang matière d'approvisionnement des médicaments mentionnés dans le cadre de gouvernement à gouvernement ou G2G et entreprise à entreprise. Comme l'a déclaré le ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, le 7 avril, le gouvernement japonais s'est engagé à donner des médicaments afghans aux pays prioritaires, y compris l'Indonésie. En outre, l'ambassade d'Indonésie à Tokyo a également facilité la mise en place d'une coopération entre le fabricant de médicaments afghans Fujifilm et Kimia Pharma, qui était désigné par le ministère des Entreprises d'État pour coopérer en matière d'approvisionnement des médicaments afghans du Japon. La livraison de la première phase de médicaments afghans du Japon dans le cadre de la coopération du gouvernement à gouvernement et entreprise à entreprise devrait être réalisée au mois d'avril 2020. Pour encourager la coopération de matières premières pharmaceutiques avec l'Inde, la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a spécifiquement discuté du soutien du gouvernement indien lors d'une conversation téléphonique avec le ministre indien des Affaires étrangères, M. Subrahmanyam Jaishankar. La coopération entre le ministère des Affaires étrangères, les représentants de la République d'Indonésie en Inde, l'Agence pour le contrôle des drogues et des aliments ou BPOM et le ministère des Entreprises publiques a aidé l'approvisionnement des médicaments dans le cadre B2B et assuré que les livraisons peuvent être effectuées au milieu des restrictions à la circulation des personnes et des marchandises. À savoir, entre autres, Dexa Medica Indonésie avec laboratoire en Inde pour chloroquine phosphate, Indopharma avec Hetero Labs Limited, l'Inde pour oseltamivir et Kimia Pharma avec IPCE Laboratory pour oseltamivir. Actuellement, la coopération B2B pour l'approvisionnement des médicaments est en cours d'expédition. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a apprécié cette coopération et exprimé l'espoir que ce partenariat visant à encourager la solidarité et l'humanité pourrait continuer à être amélioré et développé par de nombreux pays dans le cadre de l'effort conjoint pour vaincre la pandémie de COVID-19. Chers amis, c'était la rubrique Modernisie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Tak ada yang harus kita sesali. Semua indah yang pernah kita alami. Meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji abadi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Kita putar kembali jalinan cerita mungkin tak begini. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan saling pandang dan tak akan lebih lagi. Aku dirimu dirinya
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à voyager à Nusa Tenggara West. Chers auditeurs, Lombok est une île de Nusa Tenggara administrativement dans la province de Nusa Tenggara West. En plus de Bali, Lombok est aussi une destination touristique favorite en Indonésie. La population islamique est majoritaire musulmane, environ 95%, et le reste du christianisme, de l'hindouisme, du bouddhisme et du confucianisme. Ils vivent côte à côte harmonieux. La tolérance religieuse à Lombok était si forte, l'une d'elles est regardée dans les édifices de culte des communautés hindoues, à savoir le temple de Lingsar. Le temple de Lingsar est un symbole d'harmonie entre les hindous et les musulmans à Lombok. Chers auditeurs, le temple de Lingsar est situé au village de Lingsar, la résidence de Lombok West. Ce temple est le plus grand à Lombok, construit depuis 1741 par le roi Anak Agung Ketut Karangasem comme symbole d'unifier le peuple de Lombok et est considéré comme le plus sacré à Lombok. Dans ce lieu, toute statue était similaire. Il n'y avait pas plus haute ou plus large. Pura ou le temple avec une superficie de 26 hectares, cela montre vraiment l'harmonie entre l'islam et l'hindouisme. Par exemple, il y a les règles et les règlements qui doivent être respectés afin de maintenir l'unité dans ce lieu. Les règles sont sous la forme d'offrandes d'abstinence. Il y a des offrandes qui sont interdites d'être données dans le temple de Lingsar. Les hindous sont interdits de livrer des offrandes qui contiennent du porc au dieu parce que le porc est l'animal qui est interdit par les musulmans. En revanche, le musulman est interdit de couper les vaches pendant l'Eid al-Adha parce que les animaux sont considérés comme sacrés par la communauté hindoue. La tolérance est un jalon qui unifie Lombok.
serviteurs dans ce temple des hindous et des musulmans prions ensemble, surtout les musulmans de Sasak, pour continuer à renforcer le lien entre ces deux parties religieuses. Le temple de Linsang a encore tenu une cérémonie impliquant les deux religions. Cette cérémonie est appelée Prang Ketupat. Dans cette cérémonie, les musulmans et les hindous lanceront le ketupat. C'est comme une forme de gratitude pour l'harmonie qui existait jusqu'à présent et pour la fortune en abondance. Comme symbole de préservation de la sainteté du temple, chaque visiteur doit utiliser un foulard jaune comme enseigne de respect. Lors de l'arrivée à ce temple, vous verrez des fontaines sacrées comme symbole du représentant de Wali Songo. Cette eau est utilisée pour les ablutions musulmanes. L'eau provient de la fontaine est également censée d'apporter la fortune, le succès et le bonheur. Vous qui visitez ce objet touristique trouverez quatre fontaines dans la zone au-dessous du temple, tandis que le reste se trouve dans la zone de bas. Au temple de Linsak, il y a une piscine qui a été construite pour honorer le dieu Vishnu avec une superficie de 6230 m². Cette piscine, appelée Telaga Ageng, est habitée par des poissons qui ne sont pas appelés, ne se manifestent pas. Pour visiter le temple de Linsak, vous pouvez prendre les transports en commun du terminal de Bertais, dans le centre-ville vers Narmada qui coûte 3000 rupiah. En outre, de Narmada au temple avec le même tarif. Serviteurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Le temple de Linsak. Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Jalan diri, ingin.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix d'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet aujourd'hui est meminta nomor telepon ou en langue française demander un numéro de téléphone. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre meminta nomor telepon ou en langue française demander un numéro de téléphone. Tony est dans la zone de temps de Prambanan avec son ami Joko. Joko a demandé le numéro de téléphone portable de Tony, le numéro en Indonésie.
Tony, boleh minta nomor HP kamu?
Boleh, 081-364-59720.
081-364-59720.
Bukan 6, tapi 0.
Oh, 9720.
Iya. Yeah.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir meminta nomor telepon. Meminta nomor telepon. En français, demander un numéro de téléphone. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Tony, boleh minta nomor HP-mu? Tony, boleh minta nomor HP-mu? En français, Tony, je peux avoir ton numéro de portable? Boleh. Boleh. En français, d'accord. 0. En français, 0. 8. 8. En français, 8. 1. 1. En français, 1. 2. En français, 2. 3. 3, en français 3, 4, 4, en français 4, 5, 5, en français 5, 6, 6, en français 6, 7, 7, en français 7, 8, 8, en français 8, 9, 9, en français, 9, bukan 6, tapi 0. Bukan 6, tapi 0. En français, pas 6, mais 0. Handphone atau HP, atau telepon genggam, atau telepon seluler. Je répète, handphone atau HP, atau telepon genggam, atau telepon seluler. En français, téléphone portable ou téléphone cellulaire. Pour demander le numéro de téléphone de quelqu'un, dites boleh minta nomor téléphone? Boleh minta nomor téléphone? En français, je peux avoir ton numéro de téléphone? Si ce qui est demandé est un numéro de téléphone portable, vous pouvez dire boleh minta nomor ponsel kamu? Boleh minta nomor ponsel kamu? En français, je peux avoir ton numéro de portable? Ou dans la conversation de tous les jours, boleh minta nomor HP? Boleh minta nomor HP? En français, je peux avoir ton numéro de portable? Chers auditeurs, avant de terminer Apprendre l'indonésien aujourd'hui, Pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Tony, boleh minta nomor HP kamu?
Boleh, 081-364-59720.
081-364-59720. Bukan 6, tapi 0.
Oh, 9720.
Iya.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Apa arti di balik cerita? Hati ini terasa berbunga-bunga, membuat seakan aku melayang terbuai asmara. Oh. Adakah satu arti di balik tatapan? Love.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Voice of Indonesia, l'Indonésie à tout le monde. Cette édition, nous allons vous présenter des informations sur une chanson malaise intitulée Sri Mersing, chantée par Iyet Bustami. Cette chanson malaise raconte les conseils de la vie. Bien que le destin soit moins chanceux, mais doit rester reconnaissant de vivre dans un pays sûr et prospère. Elle contient le panthéon de conseils qui sont composés de rangées sampiran et de rangées de contenum. L'orchestre malais a été joué pour accompagner cette chanson. Les instruments de musique utilisés dans l'orchestre, tels que l'accordéon, la guitare, le violon et le gambus. La chanson intitulée Sri Mersing est sur l'album Iyet Bustami de Pop Melayu. Bon, c'est le talk, écoutons maintenant la chanson intitulée Sri Mersing, chantée par Iyet Bustami. Bonne écoute et à demain. Putar lagu dari Iyet Bustami dengan judul Sri Mersing.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.